Ça y est, c'est le printemps. Saison de tous les possibles, c'est le bon moment pour faire le ménage dans ta vie perso comme dans ta vie pro. Le moment idéal pour dire ciao à ce crush un peu naze, mais aussi pour écouter cette petite voix intérieure qui te murmure tout bas qu'il est temps de retrouver du sens dans ton travail. As-tu déjà entendu parler de Chance ? Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle pour t'aider à raviver la flamme de ta vie pro. Laisse-moi te raconter comment ça marche. Ça commence par un bilan de compétences. En seulement 3 mois, tu vas pouvoir te reconnecter à tes envies, clarifier tes objectifs et définir une voie professionnelle qui te correspond vraiment grâce à l'aide personnalisée d'un coach professionnel. Ensuite, une fois ton projet défini, tu vas passer à l'action grâce à l'aide de la communauté Chance. Elle sera là pour te soutenir et t'ouvrir son réseau, hyper important, pour que tu puisses donner vie à ton nouveau projet. Perso, je trouve ça absolument génial et en plus, c'est pris 100% en charge par le CPF. Alors, crusher de mon cœur, si ce message allume une petite lueur en toi, je te donne rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et n'oublie pas de dire que tu viens de ma part. Si la vie ne vaut d'être vécue sans amour, je crois aussi qu'elle est bien plus belle avec un job aligné avec nos aspirations et crois-moi, je suis très bien placée pour le savoir. C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
Salut Lou Arthur.
Bonjour.
Comment est-ce que tu vas ?
Écoute, ça va bien et toi ?
Super, je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui dans ce lieu un peu spécial.
Ouais.
Les auditeurs de Crush n'ont pas l'habitude de me voir dans ce genre de décor. Est-ce que tu peux nous raconter, me raconter où est-ce qu'on se trouve ?
Eh bien, écoute, on est dans la loge du Théâtre du Marais.
Ouais.
Donc, et
dans la loge. Pourquoi donc est-on ici ?
Eh bien, parce que c'est là que je joue mon spectacle qui s'appelle Chronique Sentimentale, que j'ai commencé à jouer à Paris il y a tout juste un an, voilà, et qui nous accueille aujourd'hui pour parler de ce film.
Exactement. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ton spectacle ? Parce que moi, quand tu me dis chronique sentimentale,
ouais,
ça m'intrigue. Je dois t'avouer aussi que je suis allée sur YouTube chercher des, ouais, extraits du spectacle que je n'en ai pas trouvé.
Qui sont inexistants, mais oui. Chronique sentimentale, en fait, c'est un spectacle comédie romantique. C'est un seul en scène, humoristique, ouais, où je raconte en fait pendant une heure. C'est une heure de loose sentimentale.
Okay.
Et au-delà de ça, c'est le point de départ de cette histoire. C'est l'histoire d'un adolescent que j'étais, qui a grandi dans les années 90, entouré d'une famille très fan de cinéma d'auteur polonais et qui, okay, a du mal à faire son coming out, à savoir sa passion pour les comédies romantiques.
Okay.
Et comment on assume sa passion pour les comédies romantiques dans un milieu très intellectuel, de gauche, branché France Inter, Télérama, plutôt que coup de foudre à Notting Hill. Et surtout, ça permet aussi de parler de l'absence de représentation d'amour homosexuel au cinéma, ouais, à l'époque, car le sous-texte en fait, du spectacle, c'est surtout comment on grandit quand on est un adolescent gay dans les années 90, quand on n'a aucune représentation du sentiment amoureux, puisque moi, dans la vie, je rêvais d'être invité dans cette boum, celle de Vic et de Mathieu, ouais, dans la boum, et je ne voyais pas de garçon qui invitait un autre garçon à danser un slow. Donc, je me suis construit comme ça tout un imaginaire amoureux, en m'appuyant sur les comédies romantiques. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas vraiment. Mais en tout cas, c'est ce que raconte ce spectacle.
Dans ton spectacle.
Tout à fait.
Je me pose une question quand tu me dis ça. Aujourd'hui, ça a changé, ça ?
Attends. C'est l'objet d'un autre spectacle, d'ailleurs, que je suis, ouais, en train d'écrire en parallèle, où en fait, on a quand même de plus en plus, notamment dans les séries, on a pas mal, oui, de séries, je pense à Heartstopper récemment sur Netflix,
Sex Education aussi,
où quand même c'est de plus en plus abordé, et surtout où on commence à oublier la question du coming out, parce qu'en fait, beaucoup de fiction cinématographique et même télévisuelle, parce que dans les années fin 90, début 2000, c'était la grande époque des téléfilms. France, mmh, Télévisions, labellisé France 5, Arte et France Télévisions, où on abordait beaucoup les questions de coming out et de la difficulté d'accepter son homosexualité. Surtout
le
pour les garçons, parce que les femmes, ouais, sont déjà en général moins représentées, mais alors justement dans ces, mmh, fictions-là, encore moins. Et donc, on parle plus de difficultés, de drames, et peu de sentiments amoureux, en fait. Et donc, on a de plus, ouais, en plus certaines séries ou certaines fictions qui arrivent, qui prennent un petit peu le contre-pied de cette démarche-là et qui en parlent de manière plus grand public, mais ça reste encore quand même assez intime,
ouais,
confidentiel.
Oui, et j'en parlais avec une de mes invitées, avec Léa, que j'ai interviewée sur sa rencontre avec Capucine. Et on se disait qu'il fallait qu'on écrive, en fait, cette comédie romantique,
qui, oui,
grand public, de couples homo, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Enfin, homo et même non-binaire et même non sans case, enfin, tu vois.
Il y en a quelques-unes qui sont très peu connues sur Entre deux femmes. Je pense à La Tentation de Jessica, qui est un nom absolument horrible. On a
Waouh.
l'impression d'avoir un, tu sais, ces romans à l'eau de rose qu'on trouve
C'est
aujourd'hui dans les
clair.
boîtes à livres.
Ouais.
Il y a La Tentation de Jessica, qui est une comédie new-yorkaise, pas très loin d'ailleurs dans l'esprit de Cohan contre Sally, avec justement cette écriture de dialogue très rapide, avec un humour un peu juif new-yorkais comme ça
OK.
qui existe. Mais bon, il y a Call Me by Your Name aussi quand
Ouais.
même. Mais pareil, on est toujours dans Call Me by Your Name sur la question difficile de l'acceptation de ses sentiments, sur l'impossibilité en fait de vivre une romance
Oui.
aussi. Enfin, c'est
Alors
toujours un
qu'on
petit
pourrait
peu.
juste raconter l'amour, en fait, et les belles
C'est
choses
ça.
de façon positive, c'est ça que tu dis.
Et c'est vrai que moi, dans
Ouais.
mon spectacle, c'est vraiment là-dessus que j'ai eu envie de travailler. C'est-à-dire que la question du coming out est pas du tout, quasiment pas traitée. Elle est balayée du revers de la main juste en une réplique au début du spectacle. Et après, en fait, l'idée, c'est plutôt
Ouais.
comment on. Peu importe qu'on soit un garçon qui aime les garçons, une fille qui aime les filles, peu importe. C'est comment on gère au moment de l'adolescence cette absence totale de maîtrise de soi, de loose complète. Est-ce qu'on peut vraiment, comme au cinéma, aller déclarer sa flamme à son assistant d'anglais avec un appareil cassette audio à la main sur du Phil Collins? Non, on peut pas faire ça. Mais en tout cas, c'est plus ça en fait que j'ai eu envie de montrer et de se dire bah. Ça fait du bien aussi de parler de ça sans justement parler de la question de la difficulté d'acceptation de son orientation sexuelle.
Absolument. Génial, ça me donne hyper envie d'aller voir ton spectacle. Alors aujourd'hui, c'est pour toutes ces raisons, Louis-Arthur, que je t'ai invité évidemment à faire un épisode Crush Movies avec moi. Et tu as choisi, parmi toutes tes comédies romantiques préférées, et tu en as pas mal, tu as choisi un film qui est Quand Harry rencontre Sally.
Oui.
C'est un film qui est sorti en 1989, réalisé par
Rob
Rob
Reiner.
Reiner, avec une scénariste
Oui.
femme
Oui.
qui est
Qui est Nora Ephron et qui est un peu la maîtresse des comédies romantiques et surtout de cette comédie romantique Quand elle rencontre Sally. Nora Ephron, qui est également autrice, elle a écrit plein de chroniques, des super livres, je crois qu'ils n'ont pas été traduits en français. Moi, je les ai lus en anglais. Genre. Mais.
Moi aussi j'ai lu Normal People en anglais.
Ah, mais
Ah.
oui. Oh, Normal People, oh là
Ah bah
là,
ouais.
quand même.
Ouais.
Moi, je m'en suis pas remis. Et puis,
Ah
alors,
non, mais
l'adaptation de
magnifique.
série télé, je ne sais pas si tu l'as vue, mais
Bah,
c'est
je
juste
l'ai vu,
incroyable.
je l'ai revu même. C'est la seule série que j'ai regardée deux fois.
Ouais,
Je l'adore.
c'est magnifique.
Et puis je suis amoureuse de Paul Mescal,
Ben
évidemment.
oui. Vous avez...
Mais d'elle aussi un peu, donc
Mais d'elle aussi,
finalement.
mais oui, de.
Donc, Nora Ephron,
Oui.
c'est la scénariste de Quand Harry rencontre Sally. Tu vois, je vais couper là parce que c'est la scène numéro une, je crois. C'est elle qui avait fait
Elle a fait Nuit Blanche à
Nuit Blanche à
Seattle,
Seattle.
juste après. Elle a fait aussi alors un film qui est détesté de la critique, que j'adore, qui est hyper mauvais, mais que j'adore. Plaisir coupable. L'adaptation de
Guilty
Ma
Pleasure.
sorcière bien-aimée
Ok.
avec Nicole Kidman, qui est affreusement mauvais et que je trouve affreusement génial. Je
Ok.
l'adore. Ça fait partie de ces trucs un petit peu que personne ne sait pourquoi je regarde ça. Quand ça m'est déjà arrivé d'être surpris, tu vois, cette honte d'être surpris en train de regarder Ma sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman. T'as toujours un petit temps de pause. Voilà.
C'est
Je ne me
vraiment
l'explique pas, mais
ce qui est en train de
ouais.
se passer.
C'est vraiment ça. Et je suis vraiment en train de le raconter en étant filmé. Voilà.
Mais est-ce que la comédie romantique n'est que un plaisir coupable? Vous avez 4 heures. Allez,
Ok.
on laissera Marianne Lévy y répondre
Existe, mais
probablement.
oui, existe-t-il vraiment d'ailleurs des plaisirs coupables? Grande question.
Ok, très bien, on est parti sur un moment philo.
Allez.
Et donc, en acteurs principaux, bien sûr, on a
Ouais.
Meg Ryan et Billy Crystal,
Oui.
qui sont à ce moment-là de leur carrière connus ou pas?
Ah, bonne question.
Je sais
Billy
pas
Crystal,
trop.
je crois que oui. Je me demande s'il n'était pas d'ailleurs, s'il faisait pas du stand-up ou quelque chose comme ça,
Ouais,
Billy Crystal.
ouais.
Meg Ryan, elle avait fait peut-être quelques films. Les deux sont très jeunes, mais je ne sais pas du tout.
Ouais, j'ai l'impression que Billy Crystal, on l'a moins vu après quand même. Meg Ryan, elle est restée hyper connue.
Ouais.
Et lui derrière, je sais pas si peut-être aux États-Unis plus que
Peut-être aux États-Unis, c'est vrai que j'ai pas suivi vraiment.
ouais.
J'avais vu une fois un film qui s'appelait La vie, l'amour, les vaches, je crois, avec des mecs un peu
Décidément, en termes de titre.
qui. Ouais, c'est vrai, l'amour, la vie, les vaches. Titre de podcast, peut-être. Je suis sûr que ça cartonnerait.
Mais c'est clair, c'est génial. J'imagine déjà la vignette.
L'amour, la vie, les vaches. Ça se trouve, c'est pas ça du tout le titre du film. Mais si, je crois que c'est ça en plus. C'est sur un groupe de mecs qui partent, genre au Far West, pour un peu se détoxifier, je crois, des relations
Ok.
humaines, un truc comme ça. Enfin bon, ça parle d'amour,
Ok.
de vie et des vaches.
Ok, trop
Avec Billy
bien.
Crystal.
Ok,
Je sais
bon
pas si je le
bah,
conseille.
je vais le mettre dans les rêves de
Ouais.
l'épisode, ça peut être marrant. Alors, la première scène que tu as choisie, donc d'abord on va résumer l'histoire du film. L'histoire du film, j'ai lu quelque part, je crois que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, donc Harry et Sally, qui adorent se détester.
C'est ça.
Qui se croisent plusieurs fois
Oui, tout à fait. Il y a
dans
des
leur
ellipses
vie.
temporelles. En
Ouais.
fait, le film est construit sur la base de rencontres hasardeuses à plusieurs étapes de leur vie, avant qu'ils deviennent tous les deux très amis, en fait.
Et jusqu'au jour où
Voilà.
il va se passer quelque chose. Tu as choisi quatre scènes. La première, c'est le tout début du film. Donc, ils font un voyage en voiture ensemble. Aux
C'est
États-Unis, on
ça.
voyage beaucoup en voiture pour faire des longues distances. Et donc, ils font un covoiturage, en fait,
Ouais,
hein. Ils sont
c'est
hyper
ça.
modernes. Et c'est elle qui conduit. Et lui, il est sur le siège passager. Et en fait, c'est l'occasion de parler de la vie, quoi.
Exactement. Rien que ce sourire déjà dès le départ.
Donc lui, il est en train d'enrouler des grosses galoches à sa copine et elle lui dit « Allez, on y va, c'est parti, mon coco. » La musique est géniale dans ce
Mais
film.
c'est ça, en fait, c'est dès le départ, tu es plongé dans ce qui va être, c'est un peu la Bible des comédies romantiques en termes d'ambiance musicale.
Ouais.
C'est génialissime.
Donc là, on est sur un jazz. Donc elle lui dit qu'elle a tout organisé, tout le voyage, où est-ce qu'ils vont
C'est ça.
s'arrêter, comment ils vont, quand est-ce qu'ils vont changer de chauffeur. Lui, il bouffe du raisin comme un gros goré, on peut le dire.
Exactement.
Il va même, voilà, cracher sur la fenêtre pensant
Et
qu'elle est
oui.
ouverte, ses pépins. C'est
C'est
très
ça.
sexy. Et il la provoque, là, déjà dans le regard.
Oui, il y a de la provocation immédiate. C'est un peu la supériorité masculine dans toute sa splendeur. C'est-à-dire
Exactement.
que lui sort de l'université, il est forcément le sachant, il est forcément l'homme un peu sombre qui doit philosopher sur la vie.
Voilà, donc ils ont 18 heures de route pour rejoindre New York depuis Chicago. Et il lui demande ce qu'elle veut faire. Elle lui dit qu'elle veut être journaliste. Et en fait, dans leur échange, c'est ce que tu dis, cette supériorité masculine, il lui assène vraiment sa vérité, quoi.
Oui.
Sa vision du monde. Et elle, en fait, elle est choquée par sa vulgarité.
Voilà.
Et tout de suite, elle apparaît vachement comme naïve aussi, non?
Ton côté sombre, d'ailleurs, j'ai pris cette notion de côté sombre. À un moment donné, il y a une petite réplique dans le spectacle où je dis, je ne spoil pas ce qui est mon côté sombre, mais à un moment donné, je fais un gros coming out sur mon côté sombre et qui est pas loin en fait de Sally.
Tu n'es pas profond pour autant. De nature, je suis heureuse moi aussi. Donc là, ils ont un débat sur le bonheur, en fait.
C'est ça, c'est le bonheur, la vie, la mort, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vit pour mourir, qu'est-ce qu'on fait en attendant de sa mort, enfin c'est très profond dès le départ en fait.
Ouais, tout de suite, la conversation, elle est hyper philo,
Voilà.
quoi.
Et c'est vraiment en fait, je m'en lasse. Alors déjà le fait que ça ponctue ces crachats de pépins de raisin, c'est juste incroyable. Et en fait, ça me fait penser à un autre film que j'aime beaucoup, qui est très bavard aussi, comme moi.
Ouais.
C'est les Before Sunset, Before Sunrise, en
Ah
fait, de
oui.
Julie, avec Julie Delpy et Ethan
Et
Hawke.
Ethan Hawke.
Et en fait, moi, j'adore les films où ça parle comme ça. C'est bon, dans Before Sunset et Before Sunrise, ils parlent en marchant. Là, c'est dans cette voiture. Et
Ils se
ça
rencontrent dans un
parle.
train,
Ils se rencontrent dans un
ouais.
train,
Ouais.
effectivement. Et là, ça parle de vie, de mort, de cinéma, de tout ça. Et moi, quand j'ai découvert Adolescent, enfin, c'était le premier film que je voyais un peu, pas d'adulte, mais où d'un coup, je me disais, mais je veux faire ça dans la vie, en fait. Je veux pas mettre de la laque, parce que là, elle est en train de mettre de la laque
Ah oui, dans ses
sur ses
cheveux.
cheveux, sur cette permanente absolument incroyable.
C'est vrai.
Mais c'est ça, c'est pour moi, je me disais, bah, je
Ça.
vois des gens qui sortent de la fac et qui parlent de la vie, de l'amour, de la mort et du cinéma, comme ça, dans la voiture. Je trouvais ça
Ouais.
génial.
Ouais. Pourquoi tu as choisi cette scène, toi, Louis Arthur? En quoi elle te paraît importante dans le film?
Alors, elle me paraît Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que contrairement à beaucoup de comédies romantiques, le point de départ est souvent quelque chose. En fait, ce qui empêche la relation amoureuse entre deux personnages, c'est souvent quelque chose qui est un peu fabriqué scénaristiquement. Là, ce qui empêche juste la relation entre les deux, c'est eux-mêmes, en fait.
C'est leur
C'est leur
personnalité.
personnalité. Il y a rien d'autre. C'est juste,
Ah.
ils apprennent à se découvrir. Et il n'y a pas de tempête de neige qui les bloque dans la voiture. Il
Absolument.
n'y a pas, il n'y a pas une tornade comme je pense à ce film avec Sandra Bullock et comment il s'appelle,
Ben
Ben
Affleck.
Affleck, où il y a une tornade qui les empêche de voyager. Enfin, il y a toujours
Ou
quelque chose
Speed aussi, où
où
elle est dans le
Speed.
bus avec
Voilà.
avec Keanu Reeves.
Là, il y a juste rien. C'est juste deux personnes qui se rencontrent et qui parlent et qui se rencontrent, qui sont opposées sur tout.
Ouais.
Et surtout, ce qui est génial, c'est que cette scène de départ va vraiment construire les deux identités qu'on se fait des personnages, qui vont complètement évoluer. Et c'est aussi quand on la regarde rétrospectivement cette scène. C'est ça aussi que j'aime, c'est-à-dire qu'on ne fiche pas des personnes selon une identité prédéfinie dès le départ et qui vont s'y tenir jusqu'à la fin du film. Bien au contraire, ils vont même revenir à plusieurs reprises sur ces parties de dialogue. Là, elle parlait juste à l'instant du film Casablanca, où elle dit, mais voilà, moi, je comprends Ingrid Bergman, le choix qu'elle ne parte pas
Ouais.
avec l'amoureux,
Ah oui,
voilà,
c'est ça.
sombre. Moi-même, j'aurais fait ça, j'aurais voulu finir première dame. Et à la fin, ou à la moitié du film, il dit, mais tu te rends compte que tu avais dit que tu voulais être première dame? Elle dit, mais j'ai jamais dit ça.
Ouais.
Et donc, c'est ça aussi, c'est comment on évolue, comment on grandit, les images qu'on se fait. Et là, c'est vraiment deux personnes qui sortent de l'université, qui ont une idée préconçue de ce qu'ils veulent faire.
Ouais,
Elle
c'est
veut
vrai.
devenir journaliste, lui, auteur très sombre. Et qu'est-ce qu'on va faire après dans quelques années quand on va les retrouver? Et puis surtout, là, la scène pose le rythme des dialogues, la drôlerie. Ils abordent la question là dès le début de la sexualité aussi, puisque
Ouais.
moi je trouve ça très drôle ce dialogue aussi. En fait, ils sont tous les deux dans un diner et elle parle du fait, lui lui dit mais qu'elle n'a pas dû connaître beaucoup d'amants ni beaucoup d'épanouissement sexuel dans sa vie. Elle lui dit mais pas du tout. Moi
Ouais.
j'ai connu un épanouissement sexuel, mais on s'est séparés avec un garçon parce qu'en fait je ne portais pas de culotte du dimanche. Elle
Oui,
avait
c'est
des
ça.
culottes jour de la semaine.
Et
Et pourquoi pas le dimanche? Parce que bah, jour du
il était
Seigneur.
jaloux.
Il était
Il se
jaloux parce que
demandait pourquoi
voilà.
il voyait jamais la culotte du dimanche.
Parce que jour du Seigneur.
Ouais,
C'est.
wow, c'est fantastique cette naïveté.
Voilà, et on voit aussi.
La tête qu'il fait.
C'est ça. En fait, au début, on se dit que c'est lui le plus névrosé des deux, en fait. Et finalement,
Ouais,
c'est elle qui a des névroses, bah, qui
bah voilà.
calcule tout.
Quand elle prend toutes ses commandes qu'elle passe au restaurant, c'est salade avec vinaigrette à côté, sans ci, sans ça, machin bidule. Là, elle est en train de faire les comptes pour l'addition au centime
C'est
près,
ça.
pour savoir combien de pourboire elle va laisser.
Lui qui lui fait cette espèce de
Ouais.
regard lover
Ouais, c'est ça. Est-ce
insoutenable.
qu'ils ont déjà là évoqué la question de l'amitié homme-femme ou pas pendant le voyage en voiture?
Juste après, parce qu'en fait, là, il
Ok.
essaye de la séduire à la fin du repas, alors qu'il vient juste d'embrasser sa copine en la laissant sur le quai.
Ouais, c'est
Voilà,
ça.
bravo.
Ouais.
Et en fait, donc,
Ou là, il lui dit, tu es très mignonne. Donc là,
voilà.
clairement, il la drague. J'avais oublié son short.
Son chant est génial.
Ah, son short. Ah, puis ce brushing.
Et ce qui est génial, c'est qu'aussi, comment ils vont les faire
Attends, je
vieillir dans ce
vais
film?
juste préciser que les cris qu'on entend derrière,
Ouais.
c'est parce que sur scène, à
Oui.
côté de la loge, il y a une répétition.
Exactement.
Et on ne sait pas ce qui s'y passe, mais en tout cas, il y a des cris, n'ayez pas peur. Alors, je t'ai coupé, pardon.
Non, non, je t'en prie. Et là, c'est même. Je parlais des coiffures parce qu'en fait, ils vont les faire vieillir, non pas avec des effets spéciaux, juste avec des changements de coiffure typiques de chacune des périodes auxquelles se passe ce film, en fait. Donc, elle le rembarre.
Elle le rembarre, elle lui dit, je ne veux, tu ne m'intéresses pas, je ne suis
C'est
pas
ça.
attirée par toi, et
Restons amis.
restons amis. Et lui, il insiste comme un gros lourdingue. Et lui, il a donc la théorie que l'amour entre un homme et une femme n'est pas possible. Et elle dit que oui. Et c'est un peu quand même le fil conducteur de toutes leurs retrouvailles et de toute
Exactement.
leur histoire ensuite. Puisque ça va être le gros débat en fait. Est-ce qu'on peut, enfin, la discussion, est-ce qu'on peut être amis? Est-ce qu'on peut rester amis? Ou est-ce que le sexe va toujours empêcher l'amitié?
C'est quand même génial ce mansplaining qu'il lui fait
Ah
pendant
ouais,
20
c'est
minutes.
clair.
Et elle lui tient tête quand même aussi, c'est ça qui est admirable, c'est qu'on n'est pas sur un personnage très policé non plus, elle est quand même. J'arrive pas à finir cette phrase, mais
Est-ce
elle est très mec, Ryan.
que tu crois qu'on pourrait refaire un film avec ce personnage de mec aujourd'hui? Parce qu'il est quand même très insupportable. Il est très anti-MeToo, il est très anti-féminisme, il est anti-tout.
Oh, je ne sais pas s'il est anti-féministe. Disons que... Bah, après, je...
Je le trouve très manipulateur aussi dans certaines
scènes. Oui, il est très manipulateur. Ouais. Il est très, très manipulateur.
Mais à la limite du pervers narcissique, hein, cette nouvelle figure psychologique de notre époque, mais... Il y a des moments, il est limite, bah, la scène du musée.
Et en fait, juste pour... est-ce qu'on pourrait refaire ce film-là? En fait, il faut le prendre dans son entièreté. C'est-à-dire que... c'est ça aussi que j'aime, c'est que ce film n'enferme, comme je disais, n'enferme pas le personnage dans un stéréotype. Les personnages évoluent. Donc, effectivement, si on était sur un film où une femme tombe amoureuse d'un pervers narcissique et qui tient ce genre de propos sans qu'aucun des deux n'ait d'évolution dans leur raisonnement, non, c'est pas possible. Sauf que le film est tellement fin, et déjà il a été écrit par une femme, donc déjà scénaristiquement ça change tout. Oui, pour moi, quand elle rencontre Sally, garde sa modernité, parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est ce ping-pong entre les deux, et c'est comment elle lui tient tête et comment elle lui explique par A plus B qu'en fait son raisonnement ne va pas. Et c'est ça que je trouve assez brillant dans ce film.
Donc là, ils se séparent pour la première fois après le voyage.
Et il ne s'est rien passé.
Il ne s'est rien passé malgré ses avances et ils ne sont pas amenés à se revoir. Quoi. Même
c'est ça.
Ils se détestent un peu ouvertement. Quoi.
C'est, oui. En plus, tous les deux viennent d'arriver à New York, ils ne connaissent personne, ils pourraient se dire on va rester amis.
Exactement.
Avoir toutes les scènes traditionnelles dès le départ de on va se rencontrer par hasard tous les jours, on va prendre le même café, tout ça. Non. Grosse ellipse temporelle, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'entre chaque scène, il y a des personnes âgées, ce qu'on ne voit plus jamais en général, qui parlent de leur première rencontre, de leur amour. Donc ça donne des petits indices sur oui, on sait qu'ils vont tomber amoureux. Mais ce n'est pas le sujet dès le départ. Le sujet dès le départ, c'est l'amitié, c'est la rencontre.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme dans toutes les comédies romantiques, on connaît la fin. Ce qui nous intéresse, c'est comment on arrive à la fin.
Exactement.
Sachant que il y a toujours ces obstacles dont tu parlais tout à l'heure. Et que là, les obstacles, ce ne sont pas des obstacles externes, mais c'est eux-mêmes.
C'est eux-mêmes, ce sont eux-mêmes. Et c'est, donc il y a une première ellipse dans le film qui se passe quelques années après, où on se retrouvait de nouveau par hasard. Et ça, c'est génial aussi, c'est qu'on croit qu'il va la reconnaître, elle, et en fait, c'est...
Oui, c'est vrai, il la reconnaît lui.
Et là, c'est l'inversement de la scène, c'est-à-dire qu'au début, c'était lui qui roulait des pelles de manière honteuse, cette femme. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est elle... Et c'est alors là, on est passé tout de suite du look presque scout qu'elle avait avec son short taille haute, un look très Wes Anderson. Là, on est sur le look working girl. Ouais. On sent qu'elle a réussi.
Ses cheveux.
On se dit que ses cheveux.
Coupés court au carré, mais toujours brushés quand même. Hein. Lui fait semblant de ne pas la reconnaître.
Voilà, il se regarde un petit peu. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon histoire d'amour à moi, en fait.
C'est-à-dire
En fait, mon amoureux, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était... on était ados. Et après, c'était dans un camp d'ados, un échange comme ça. Et on a fait du camping et tout ça ensemble. Il y avait un peu cette relation, justement, très bavarde et tout ça. Et on s'est... Lui est parti faire ses études ailleurs, il est parti aux États-Unis, moi je suis parti, et on s'est retrouvé quelques années après par quelqu'un qui m'a dit « j'ai absolument rencontré quelqu'un que j'aimerais te présenter ».
Incroyable.
Et voilà, et c'était lui, et moi j'ai fait un peu comme, exactement comme, de toute façon ce film, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie, j'ai un peu fait exactement la même chose, c'est horrible, mais j'ai fait « non, je crois pas qu'on se connaisse ».
Et lui t'avait reconnu ?
Ouais, lui m'avait reconnu.
Mais il te l'avait dit ?
Oui, oui. Mais de toute façon, moi, je me suis énormément reconnue dans le personnage de Sally.
Ouais.
On la voyait au début tout organisée. Moi, j'ai une angoisse du vide. Donc, je suis du genre à... Là, je suis partie un week-end, quelques jours, en bord de mer. J'avais déjà des mois avant prévu la promenade en bateau, le truc. Je sais, quel ciné, quel théâtre, tout ça. J'ai cette angoisse. Donc, j'ai cette planification. Et
T'es plus Sally, du
coup. Ah, moi, je suis complètement Sally dans ce film, de toute façon.
Moi, je suis plus Harry, en fait.
C'est vrai ?
Ouais, complètement. Sur pas mal de trucs. C'est marrant.
Tu as un côté sombre, en fait.
Ouais, carrément.
Donc, parce que c'est ce qu'il explique dans la voiture, en fait, quand il parle de... Il demande à Sally si, quand elle commence un livre, elle termine tout de suite la page, elle lit déjà la dernière page, parce que si elle meurt entre-temps, au moins, Elle aura lu la fin. Tu es du genre à...
Alors, je ne fais pas exactement pareil, mais je lis le dernier paragraphe de la dernière page.
D'accord.
Je commence le bouquin.
Ouais.
Je suis dans l'intrigue. Et je lis le dernier paragraphe. Mais soit ça te donne beaucoup d'infos, soit ça ne t'en donne pas. En revanche, je ne fais pas ça parce que je pense que je vais mourir entre les deux. Hein.
Ah, ok.
Non, ce n'est pas la même chose. Mais c'est juste parce que j'ai envie d'essayer de deviner et d'avoir un indice en plus de ce qui va se passer.
Un petit peu comme avec les comédies romantiques, en fait. Tu aimes bien savoir le cheminement.
C'est pour ça que j'adore les comédies romantiques.
Ok.
Et c'est pour ça que Crush, c'est la même chose, en fait. Les histoires d'amour qu'on me raconte, tout, on sait comment ça va finir. Il y en a quelques-unes où il y a eu des fins surprenantes,
okay.
notamment le crush de Julien. Mais sinon, on sait que c'est un couple qui vient raconter comment ils se sont rencontrés. Donc, on sait qu'ils sont ensemble.
Ouais.
Donc, c'est comment on arrive à ça
qui
est intriguant et qui tient en haleine.
D'accord.
Et je dis souvent, ce qui est fou avec les histoires d'amour, c'est qu'on connaît la fin, mais qu'on a quand même envie de savoir.
Mais oui.
Et c'est là-dessus que tiennent les scénarios de comédie romantique.
Ouais, et puis alors là, celui-là particulièrement, puisqu'effectivement, ils ne s'embrassent pas dans ce film avant les trois quarts du film, je pense. Donc, et c'est ça aussi que je trouve beau, c'est en fait, c'est une histoire d'amitié qui se construit avant d'être une histoire d'amour, donc ça pose aussi la question de l'amitié. Un couple, est-ce que c'est pas au départ une histoire d'amitié aussi, enfin,
ouais.
C'est-à-dire que là, ce que je trouve marrant finalement dans ce film, c'est qu'on nous montre tout l'après, ils le vivent avant finalement.
Ah oui.
Je ne sais pas si c'est très clair, mais dans les comédies romantiques, tu vois, dans tes deux précédents épisodes, quand on parle de Coup de foudre à Notting Hill, par exemple, on voit très peu de quotidien entre Julia Roberts. D'ailleurs, Julia Roberts a-t-elle un quotidien ? Ça, on peut se poser cette question-là. Mais on voit très peu. Bon, on voit des scènes classiques où ils s'embrassent. On se dit, waouh, ils vivent leur meilleure vie parce qu'ils s'embrassent. Mais au-delà de ça, il y a très peu de scènes vraiment ensemble. On est toujours sur la cristallisation des sentiments, sur l'attente, sur le fantasme de l'autre. On n'apprend pas forcément à le découvrir. Et c'est toujours, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants. Mais on ne sait pas leur quotidien. Alors que là, les deux construisent un quotidien. Ils se révèlent tout, en fait. Là, dès le départ, ils parlent d'amour, ils parlent de sexe. Là, on est sur une scène où ils se retrouvent dans un avion. Ils vont être enfermés dans un avion et ils parlent de leur déception amoureuse, de leurs ex. Ils vont commencer à se découvrir. Donc, c'est vraiment une histoire d'amitié, de coup de cœur, comme ça, d'échange, plus que... voilà, on a l'après au moment d'avant.
Ouais, il n'y a pas de fantasme, il y a pas du tout cette phase de fantasme et de cristallisation avant le premier baiser, quoi.
Ce qui va leur jouer des tours, parce que finalement, c'est contrairement à d'autres comédies romantiques, c'est ce premier baiser qui va un peu tout bousculer, tout ce qu'ils avaient construit, alors que on est souvent dans l'attente du premier baiser. Là, c'est le premier baiser et leur première relation qui va tout bouleverser leur écosystème et leur questionnement, leur écosystème
et leurs convictions. Et alors, la scène d'après que tu as choisie.
C'est celle
de la librairie.
Exactement.
Alors, hop, on va se remettre là. Donc là, on est encore...
On est presque 10 ans après leur première rencontre, je crois.
On apprend... donc, dans la scène de l'aéroport, on apprenait qu'elle, elle était en couple avec ce garçon qu'elle était en train d'embrasser et que lui était sur le point de se marier.
Voilà.
Là, on arrive... voilà, là, il lui dit ça. Et là, on arrive ensuite... ensuite, on comprend qu'on est 10 ans plus tard, qu'elle, elle vient de break-up avec, avec Joe, son amoureux, et que lui, he's getting a divorce.
Voilà.
Et il se retrouve par hasard dans une librairie à New York.
Avec Carrie Fisher, Princesse Leia.
Ouais, c'est vrai, c'est Princesse Leia, la vache.
Et alors... j'aime tout. J'aime le look que je trouve incroyable. Donc, elle a toujours cette coiffure un peu, on va dire, effet coiffé, décoiffé.
Ouais.
Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas un spécialiste capillaire. Elle a sa petite veste en tweed. Elle a son pull col roulé rouge dans une librairie. Ses grosses lunettes. Elle a un petit peu... Je ne sais pas si tu connais cette série, Madame est servie.
Ouais, exactement.
Voilà, on a ce côté-là. Lui, il est toujours un peu creepy quand même, hein, à se cacher comme ça, à la regarder depuis le rayon développement personnel. Lui, pareil, il a sa petite chemise en jean. Je les trouve hyper élégants. J'aime les teintes, j'aime l'ambiance. Donc, on est dans une ambiance très feutrée. Le fantasme de la librairie new-yorkaise, où on peut parler comme ça. Moi, je me sens très mal à l'aise de parler dans les librairies. J'ai l'impression de déranger tout le monde. Eux s'en foutent, ils parlent. On est vraiment, pour moi, dans l'imagerie du New York classique et fantasmé, ouais, qu'on peut tous et toutes avoir, en fait.
Même un peu Woody Allen. Woody, voilà, Allen-esque, hein, c'est ça.
Ah, c'est complètement ça. Oui. Il y a un côté très Annie Hall avec Diane Keaton. Ouais. C'est vrai que Meg Ryan, dans ce film, voilà, est clairement la digne héritière d'une Diane Keaton dans Annie Hall.
Et donc là, ils engagent la conversation.
Voilà.
Elle lui dit qu'elle a broke up avec Joe.
Et lui, on sent tout de suite, les deux ont mûri et ont baissé les armes. Il n'y a plus cette rivalité physique qu'on ressentait dans les scènes précédentes. Les épaules sont baissées, les sourires sont plus détendus. Il y a quelques rides qui sont apparues. Enfin, on sent tout de suite plus de bienveillance, de douceur et d'envie de franchir ce pas l'un vers l'autre pour apprendre vraiment à se connaître. Et c'est ce qui va se passer, puisque du coup, voilà, immédiatement, ils se retrouvent dans ce restaurant. Pareil, on a de la brique blanche. On a l'esprit un peu, je vais dire, presque Brooklyn. Je trouve ça très beau ce que ça raconte, cette ambiance très feutrée. Et ces confessions de deux personnes qui ont vécu. Donc, l'un et l'autre se racontent un petit peu leurs attentes, pourquoi leur couple n'ont pas fonctionné.
Donc là, ils reconnectent et là, c'est la première fois qu'on les voit discuter sans jouer à chien et chat, quoi.
C'est ça. C'est vraiment, les armes sont posées et maintenant, on a vécu nos premières histoires d'amour, on a vécu nos premières déceptions. Et,
ouais, c'est un peu la désillusion, quoi.
Voilà. On arrive à la trentaine. On est épanouis professionnellement puisque les deux ont réussi leur vie professionnelle. Et voilà, et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Comment on continue? Et on sent quand même, s'ils en sont là à se parler tous les deux, c'est qu'il y a quand même une certaine solitude urbaine. Et voilà, donc cette petite bulle d'un coup qui est entre tous les deux, je trouve ça très beau.
Est-ce que c'est un passage, tu crois, dans la vie, un moment de se dire... là, c'est à la trentaine, tu dis, toi, là, dans le film, ils ont une trentaine.
Ouais, ils ont une trentaine d'années, là, ouais.
Parce que moi, j'ai clairement eu cette désillusion de la trentaine.
Ouais.
Où toutes mes illusions ont un peu sauté, quoi. J'étais en couple pendant ma vingtaine et j'ai quitté mon couple, mon mec. Et après, c'était waouh, c'était ouais, n'importe quoi. Mais parce que j'étais un peu désabusée, quoi.
Okay.
Est-ce que c'est un passage obligé, tu crois, dans notre vie sentimentale? Toi, t'as eu ça à un moment, à 30 ans ou à un autre âge?
Non, pas vraiment. Moi, je suis on parlait d'optimiste. Moi, je suis un éternel optimiste, en fait. Et du coup, j'ai pas eu cette crise. En fait, moi, j'ai une espèce de naïveté permanente qui me fait me lancer dans des projets absolument improbables, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels ou autres, même comme ce spectacle, par exemple. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai toujours cette espèce de naïveté de me dire, bah oui, on peut le faire. Et en fait, moi, les angoisses, elles arrivent après.
Okay.
Donc, elles arrivent en même temps que je suis en train de... Tu vois, il y a toujours ces questions, on se dit, est-ce que je vais franchir le pas et tout ça? Bah, alors, moi, j'ai pas de difficulté à franchir le pas, surtout. C'est complètement inconscient. Par contre, l'angoisse, elle arrive tout de suite après. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? J'ai des instants balavoine à 3h du matin, tout seul dans ma chambre, en me disant, mais ça ne va pas, non, de faire des trucs pareils. Donc, ce n'est pas de la désillusion. Je suis quelqu'un de très impulsif, très, très premier degré, très, très impulsif. Peut-être parce que j'ai nourri mon imaginaire grâce à cause de ces comédies romantiques où on a l'impression que tout est possible. Mais oui, on m'a proposé un poste à New York. On leur propose toujours des postes à New York. À qui ça arrive dans la vie de, voilà, donc, je pense que les comédies romantiques, quelque part, ça m'a aidé pour ça, en fait, et notamment celle-ci, où là, on voit cette construction elliptique, où on voit qu'ils se retrouvent des années après, qu'ils ont essayé des choses, qu'ils se sont trompés, qu'ils peuvent rebondir. En fait, moi, ça m'a encouragé à me lancer dans plein de projets. Donc, je ne sais plus si c'était ça ta question, mais non, je n'ai pas vécu de passage aux 30 et aux 40, parce que j'ai dépassé les 40 maintenant, douloureux.
Ouais.
Alors, mes proches te diront que si, puisque mon passage à la quarantaine correspond au moment où je me suis lancé dans le spectacle, tu n'y vois pas une petite alerte, mais je ne l'ai pas conceptualisé comme
tu
ça,
dire,
en fait.
Laissons une trace sur Terre, c'est ça?
Ouais, après...
Mais ton amoureux, par exemple, tu l'as rencontré il y a longtemps?
Ben, oui. Alors, je ne devrais pas le dire, c'est contre-productif par rapport au spectacle. Mais non, mais non, au contraire, bah là, à un moment donné, c'est bien aussi de dire qu'il y a le spectacle et qu'il y a la
vraie vie.
Mais ouais, oui, on s'est rencontrés il y a 30 ans maintenant, donc pour la première fois. Oui. Ça ne fait pas 30 ans qu'on est ensemble. Mais en fait, quand tu disais laisser une trace, c'est surtout que moi, j'étais programmateur de spectacle avant d'être moi-même sur scène et plutôt concert. Et en fait, je me suis mis par hasard à devoir programmer des spectacles d'humour, parce que la salle de spectacle dans laquelle je travaillais faisait que de la musique. Mais un jour, un monsieur m'a proposé d'accueillir une jeune artiste à l'époque, enfin elle est toujours jeune, mais qui commence à monter sur scène, qui s'appelle Bérangère Krief. Et je venais de reprendre cette salle de spectacle qui est à Orléans, et je la dédiais à la nouvelle scène musicale. Et lui m'a dit, bah, voilà, je sais que vous ne faites pas de musique, mais j'aimerais bien que vous, pour vous donner un petit coup de pouce, que vous accueilliez cette jeune artiste. La programmation, c'était un peu à l'époque des Clara Luciani, avant qu'elle soit connue, tu vois, un peu donc nouvelle scène émergente. Ça serait cohérent avec votre programmation. Je dis pourquoi pas, si ça peut filer un coup de pouce. Et moi, j'avais jamais vu de spectacle d'humour de ma vie, je n'y connaissais rien, j'avais jamais fait de théâtre ni rien du tout. Enfin, j'avais vu beaucoup de spectacles de théâtre, mais pas du tout d'humour. Et donc, j'ai accueilli Bérangère Krief. Ça s'est très, très bien passé. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas en faire d'autres? Et dans ce cas-là, je suis allé voir en tant que spectateur et programmateur des spectacles, avec une envie d'avoir une programmation inclusive qui mettait en avant des artistes femmes, des artistes LGBTQI+. Enfin, voilà, j'avais envie d'ouvrir ça. Et en fait, sur les spectacles d'humour que je voyais, je voyais peu de spectacles déjà d'artistes LGBT. Et en plus, ceux que je voyais, c'était souvent autour du coming out. Et moi, je me suis dit, mais j'aimerais bien voir un spectacle en tant que spectateur, où justement, il n'y aurait pas de questions liées au coming out et qui traduirait cette passion pour les comédies romantiques, dont je me suis replongé dans mes souvenirs d'adolescence et tout ça. Et pas avec la volonté d'être sur scène au départ, j'ai juste eu envie de l'écrire.
L'écrire.
Et voilà comment est né ce spectacle quelques années après. Et pour. Je crois beaucoup aux signes, et exactement comme Meg Ryan dans ce film, Signe du destin, le metteur en scène de Bérangère Krief est devenu mon metteur en scène. Et pareil, c'est une rencontre complètement hasardeuse. Donc, pour revenir à ta première question qui était, est-ce que les caps difficiles, les 30 ans ou 40, j'ai pas l'impression de les vivre parce qu'il y a cette naïveté permanente que je ne perds pas, qui est de, si on veut faire quelque chose, on peut essayer. La panique,
Génial.
elle vient après, voilà, et j'essaye d'être heureux de chaque étape que je vis. En gros, je me dis, si ce spectacle ne marche pas, pour le moment, ça prend plutôt bien, donc je suis content, mais au moins, j'aurais profité de chaque étape. Donc, c'est pour ça que ce film me parle tellement, parce que Sally, c'est vraiment ça, elle ne parle pas, elle perd pas sa spontanéité, elle perd pas sa volonté d'aller de l'avant, cette joie
Oui,
vivre.
c'est-à-dire que lui ne vient pas polluer son caractère, sa personnalité à
Voilà.
elle. Ouais, elle reste droite dans ses bottes, elle est comme ça, quoi.
Et c'est très dur, hein, c'est très
Ouais.
dur, surtout dans le milieu du spectacle, de ne pas perdre cette naïveté, parce que on est jugé en permanence. C'est un milieu où il y a beaucoup de compétition, les gens se regardent beaucoup, les gens adorent donner leur avis sur leur spectacle, même quand ils ne sont pas concernés, même quand ils ne l'ont pas vu. Les gens adorent parler de ton travail, et c'est très déstabilisant. Donc voilà, moi je suis admiratif des artistes qui réussissent. Ça veut dire qu'il y a une force mentale derrière
Ouais, c'est
pour
clair.
ça qui moi, m'impressionne
Ah oui,
beaucoup.
tu te mets à nu, c'est clair que tu donnes un peu ton corps à
Ouais,
la
c'est
science.
ça.
Alors attends,
Et donc,
j'ai un
pour
peu.
revenir à
Ouais.
la scène, en fait, ce qui. Je t'avais prévenu, hein, que j'étais hyper bavard.
Mais non, mais attends. Moi, je suis aussi bavarde que toi.
C'est
Mais j'aime
vrai.
bien poser les questions.
Ce qui m'a plu dans cette autre scène, en fait, c'est qu'ils reviennent sur le dialogue amitié homme-femme.
Oui.
Puisque, de la base de leur déception amoureuse, lui, il dit, mais. Est-ce qu'on ne serait pas en train de devenir amis? Et elle lui dit, bah, oui, je crois. Et il lui répond, mais tu sais que tu es la première femme avec qui je n'ai pas envie de faire l'amour. Et elle lui dit, mais c'est merveilleux, Harry. C'est merveilleux. C'est pour ça, quand on parlait de l'enfermement de l'identité du personnage au départ, oui, au départ, c'est un gros. Voilà,
Macho.
macho, et qui évolue dans son raisonnement, qui n'est pas fermé, qui s'ouvre à l'amitié femme-homme. Et c'est ça que je trouve beau aussi dans ce film, c'est de se dire que tout n'est pas perdu. On peut, il faut tenir tête, il faut lutter, il faut continuer d'argumenter. Moi, c'est assez récent dans ma vie que je m'affirmais, même politiquement, dans mon environnement personnel, dans mon environnement professionnel. Je suis quelqu'un qui m'exprime peu. Même si là on est en intimité, qu'on parle beaucoup, mais en tout cas, socialement, je ne suis pas celui qu'on entend le plus. Et l'influence des comédies romantiques, c'est ça, en fait. Il y a toujours des personnages qui osent faire des choses. Et moi, c'est ça qui m'inspire, en fait. Et qui... Bah, tiens, on est sur l'autre scène que j'avais choisie.
Ouais, au musée.
Alors, pourquoi je l'ai choisie, celle-ci? Regarde, c'est les regards de Meg Ryan. En fait, donc ils sont tous les... Je peux me permettre?
Bien sûr.
Ils sont tous les deux dans un musée. Alors déjà, c'est ça que je trouve admirable, c'est qu'ils font des road trips. Ils vont dans les librairies à New York. Mmh. Ils vont dans les musées. Et moi, c'est exactement ce qui me fascinait adolescent. Moi, je me suis dit, quand je serai grand, je veux être quand il rencontre Sally. Et
je veux vivre dans le
film. Je veux vivre dans le film. Je veux vivre comme s'il y avait du jazz partout autour de moi dès que je me promène. Donc, ils sont tous les deux dans ce musée. Ils parlent, ils ne regardent absolument pas les expos. C'est ça que j'adore dans les comédies romantiques, c'est que souvent, ils vont voir des expos qu'ils ne regardent absolument jamais.
Ouais, c'est vrai.
Donc, tu vas me dire, oh, vous avez payé votre billet quand même, ça serait mieux de regarder l'expo, non?
Ça et donc, vous inspirer.
En fait, c'est que là, c'est le moment où aussi on comprend, enfin, toute cette complicité, c'est cette amitié naissante, et aussi cette complicité entre la comédienne et le comédien, puisqu'en fait, ça, c'est une scène improvisée.
Ah!
Et lui, par... je me suis beaucoup documenté. Et
donc,
en fait...
Lui, il part en impro ?
Lui, il part en impro total. Elle rit parce qu'il se met à faire un truc bizarre où il parle d'un restaurant et tout ça. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on la voit à un moment donné, elle regarde le réalisateur.
Ah.
Et qui lui dit, mais vas-y, continue, parce qu'elle est complètement larguée. En fait, on voit que c'est de l'impro.
Ah, et donc quand... elle demande l'assentiment réel.
Voilà,
continue,
tu vas voir son regard.
Là.
Voilà. Et lui, il la reprend, il dit, non, c'est bien ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est un vrai ping-pong de comédien aussi, c'est ça que je trouve beau. Donc, elle le suit dans son délire qu'on ne comprend pas en tant que spectateur. Moi, la première fois que j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est ça. Que je trouve beau aussi, c'est qu'on sent toute cette complicité en fait de comédienne et de comédien, où ça s'équilibre, où ça joue ensemble. Et je trouve que cette scène est très belle pour ça, parce qu'effectivement, même dans la fameuse scène du diner en fait, qui n'est pas du tout une scène improvisée, la femme qui est assise derrière eux, en fait, c'est la mère du réalisateur.
Celle qui dit servez-moi la même chose.
Ouais.
Ok.
C'est la mère du réalisateur.
D'accord.
Et c'est ça que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a plein de petits trucs comme ça, de petites anecdotes que je trouve géniales, où on sent que c'est un film qu'ils ont pris toutes et tous du plaisir à faire. Et
c'est quand même aussi un des ingrédients des comédies romantiques à succès, c'est l'alchimie entre les comédiens, les deux protagonistes.
Et c'est vrai que même lui, physiquement, le choix physique au départ, alors il n'y a pas de... C'est un peu, on va dire... Un peu cliché de dire voilà, mais c'est pas une correspondance. Voilà. Moi, je l'ai pas tout de suite compris aussi quand j'étais ado parce que je le trouvais pas beau. Et je le trouve pas forcément d'ailleurs beau non plus encore aujourd'hui. Mais ça m'avait un peu perturbé quand j'étais ado de tomber sur ce personnage en me disant mais il est pas beau, pourquoi? Dans les comédies romantiques, normalement, l'acteur est beau, l'actrice est belle. Et ça m'avait beaucoup interpellé en fait. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est bien ce choix de.
Oui, c'est vrai parce qu'il est petit, il est un peu chaud. En tout cas, des garnis, on va dire. Et alors, cet appart, encore, il est incroyable. Là, c'est vraiment New York.
C'est...
Ouais. Ce gros pull en laine, waouh.
Bon, là, il va faire une grosse blague raciste.
Mais attends, parce qu'on n'a pas, on s'est pas encore posé la question du film.
Oui.
Est-ce que toi, tu crois à l'amitié entre... avec une personne du sexe dont t'es attiré? Non, je sais pas comment formuler la question. Est-ce que moi je crois à l'amitié homme-femme?
Ouais.
Et est-ce que toi tu crois à l'amitié?
Moi je crois à l'amitié.
Tu crois à l'amitié?
Ouais. C'était mon instant.
Moi je crois
Hélène Séguéra. Il y a trop de gens qui t'aiment. Tu ne le vois pas. Mais en fait, c'est pour ça que j'aime ce film aussi. C'est que pour moi, une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, comme la chanson de Céline Dion, d'amour ou d'amitié.
Tu veux nous la chanter?
Non. Je peux peut-être te dire les paroles si je m'en souviens. Pourtant, je ne sais pas comment l'aimer, s'il m'aime d'amour ou d'amitié.
Okay.
En fait,
moi, je ne peux pas te la chanter, elle ne me vient pas.
C'est
Hélène Séguéra, c'est une pression.
Mais oui, je crois à l'amitié entre personnes, tout comme je crois en l'amitié sexuelle aussi. Enfin, je pense qu'il peut y avoir aussi une amitié. Je pense qu'il peut y avoir
Donc
une
les
amitié.
Les sex friends, c'est possible.
Moi, j'y crois, en fait, tant que c'est consenti et que les bases sont discutées, en fait.
C'est dans les comédies romantiques, quand même, le Arthur. C'est encore là.
Ouais, mais c'est marrant, en fait. Moi, je me suis vraiment construit au travers de ça, tout en étant, finalement, quelque part, en opposition complète avec le message des comédies romantiques, en fait. Donc, C'est toujours peut-être cette naïveté permanente de me dire, bah si, on peut être amis, pourquoi on pourrait pas, enfin...
Pourquoi tu dis en contradiction avec le message des comédies romantiques?
Parce que les comédies romantiques, en fait, l'amitié femme-homme débouche toujours sur une histoire d'amour. On a quelques exemples, on a Sex Friends par exemple avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, où ils sont Sex Friends au départ. Pareil, il y a eu le même qui est sorti au même moment avec Justin Timberlake et l'actrice dont j'ai oublié le nom, Sexe entre amis, je crois, les titres sont horribles. Et en fait, on nous dit toujours, mais pourquoi pas, après tout, enfin, je veux dire, oui, moi j'y crois au concept de Sex Friends.
Ok, j'ai jamais essayé le sex friend.
C'est vrai?
Non.
Moi non plus, je
Par
crois
contre, j'ai
pas.
beaucoup d'amis mecs.
Ok.
Donc oui, je crois à
Donc tu y
l'amitié
crois?
aussi, ouais,
Mais oui.
carrément. Mais j'ai jamais essayé le sex friend. Attends, je réfléchis. Non, je crois que j'ai... Non. Mais alors pourquoi? C'est une grosse question qui faut que je me pose.
Voilà.
Pourquoi? Non. Non, je pense que trop intime, j'arriverai pas. Oh, ceci dit, j'ai jamais eu l'occasion, en fait. C'est jamais présenté.
Ouais.
Ouais. Ils étaient toujours beaucoup trop amoureux de moi. Non, je
Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois
déconne.
pas. Hélène Segarra est parmi nous.
Je blague, c'est une blague
Tu
récurrente
fais des apnées ou pas? Ou
avec
Hélène
mon mec.
Segarra pour elle? Après Ashita Turner dans LOL qui ressort, qui arrive, nous aurions Hélène Segarra dans Crush le podcast.
Y a Lénice derrière qui se marre.
Je fais le moins de bruit possible.
Non, mais t'as bien raison de te marrer, ça nous fait un public. En fait, on est en live.
Je joue un spectacle. Les 8 et 15 mars au Théâtre du Marais.
Les 8 et 15 mars au Théâtre du Marais.
Tout à fait.
C'était l'instant promo.
Voilà.
Alors attends, c'est complètement perdu dans le film là. Ah bah là, c'est le diner.
Là, c'est le diner, ouais.
On se le fait ou pas?
Bah, oui, on
Allez,
peut se le faire, oui,
on
tout
se
à
le
fait.
fait. C'est la fameuse scène. Moi, j'ai souvenir de, c'est marrant, cette scène. C'est, elle est, moi, ce film, il est, notamment cette scène du diner, elle me fait penser à ma mère. Parce que je pense que
Ok,
c'est chaud ce
je
que je
m'attendais
viens
pas
de
à
dire.
ça.
Enfin, c'est chaud. Non, parce qu'en fait, je pense que j'ai regardé ce film avec ma mère.
Ok,
89, moi, j'ai 8 ans.
d'accord.
Et je vis avec ma mère. Et la réplique de la dame qui dit « Servez-moi la même chose que cette
Ouais.
dame ». En fait, je pense que ma mère, c'est sa réplique de cinéma préférée de
Ok.
tous les temps. Et que genre, elle a essayé de la répéter dans sa vie, tu sais.
D'accord.
Et qu'en fait, du coup, j'associe cette... C'est chaud.
Et moi, je viens de te dire qu'en fait, tu étais la mère du réalisateur. Donc là, on est dans un espèce de truc freudien, tu vois, absolument très
Ouais,
deep.
là, il y a du transfert.
Waouh.
Putain, c'est chaud.
Sexualité, mère, scène sexuelle,
Ouais.
la mère elle-même du réalisateur.
Ouais, complexe. Là, il y a du
Et
Freud.
d'ailleurs, ta mère est là
Et
ce matin avec
là, nous avons retrouvé votre mère.
Voilà.
Ouais. Et là, il paraît que les enfants de Meg Ryan lui en veulent la vie de
Ah ouais,
cette
de cette
scène.
scène?
Qu'elle leur a foutu la honte de cette
D'accord.
scène. Faut dire que faut la jouer cette scène. Hein. Non.
Ouais. Moi, je n'oserais jamais faire un truc pareil.
Alors tu vois, c'est drôle, non, rien à voir à parté. En ce moment,
Ouais.
moi je suis dans une troupe de théâtre
Ok.
amateur et on joue une scène, on joue une pièce. Et moi, je simule un orgasme dans une scène.
D'accord. Et ça t'a inspiré dans le jeu
Ben
ou...
non, mais là, je me dis qu'il faut absolument que je remette cette scène pour m'inspirer.
Ouais.
Parce que c'est hyper dur à faire.
Ouais.
Là, pour le coup, c'est très intime, quoi. La façon dont tu as un orgasme.
Et c'est quand même aussi incroyable, c'est que la première scène d'intimité est une scène en fait où ils n'ont toujours pas couché ensemble, ils ne sont toujours pas embrassés, et on voit le premier orgasme d'une femme qui est juste un
Ouais.
orgasme simulé dans un restaurant. Enfin, tout est
Ouais.
brillant en fait, je trouve, dans
Ouais.
ce film.
Bah tout prend un contre-pied, en fait.
Et bon,
Donc
bah là,
là,
on est à New
New
York,
York, Noël.
Noël. Voilà, là,
Il
c'est
neige.
imbattable.
La patinoire
Exactement.
de Central Park, qui doit être dans un film sur trois américains. Et
Voilà.
ils achètent le sapin, le rituel. Et ils l'achètent ensemble, alors.
Ils l'achètent ensemble, ouais.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour que finalement ils finissent par... C'est quoi le premier baiser?
En fait, ce
Ah,
qui se passe, c'est
je me rappelle.
que donc elle, les deux vont être en couple en même temps. Et en fait, ils vont essayer de se présenter leurs meilleurs amis respectifs, qui vont finalement, les meilleurs amis respectifs,
Ah oui.
vont tomber l'un amoureux l'un de l'autre, et en fait, leurs meilleurs amis vont se mettre en couple. Et eux vont aussi finir par être en couple. Et en fait, elle va l'appeler un jour complètement éplorée,
Ah
elle
oui.
vient de rompre,
C'est ça, et il va venir la
il
consoler.
va venir la consoler, et ils vont finir par coucher ensemble, presque. Comme si c'était né d'une sorte de pitié. Voilà, ce qui va amener une rupture après, ils vont plus se voir pendant toujours ces ellipses un peu temporelles. Pendant un temps, ils se comportent très très mal.
Et il se passe un truc quand même.
Là, il se passe entre. Bah oui, là, c'est la naissance. Bah, c'est en fait. C'est une soirée de 31 décembre. Je ne sais pas si toi, tu es adepte de ces grosses soirées 31 décembre, mais j'ai l'impression que c'est une tradition très new-yorkaise quand
Ouais.
même. Donc, ils font leur soirée du 31 décembre. On sent toute cette tension.
Le décompte
Le
intérieur.
décompte.
Deux, un. Bonne année. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, tiens. Allez, allez. Et là, il faut s'embrasser. C'est la
Voilà, là, il faut
tradition.
s'embrasser.
Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est gêné. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont se faire un smack, non?
Je me souviens plus. Ce regard, quand même, il fait un peu flipper au niveau des regards.
Il a l'air con surtout. Un
Voilà, un petit
petit smack,
smack.
voilà. Et un câlin, un hug. Ok. On va aller à la dernière scène. Parce que c'est la dernière scène que tu avais choisie.
Tout
Donc,
à fait.
après cette scène-là où il s'est passé un déclic, genre, ah, punaise, peut-être qu'il pourrait se
Ouais.
passer un truc entre nous. Donc, elle l'appelle éplorée. Ils passent une première nuit ensemble. Ça se passe pas très bien. C'est un
Ça
peu
se passe pas bien,
chelou,
ouais.
ouais. Un peu bizarre entre eux. Et alors, la dernière scène, la scène finale, c'est là. Donc, lui, il est seul.
Voilà, il essaye de renouer contact avec elle.
Permanente.
Permanente.
Là, on est dans l'époque permanente. Sacrée époque.
Et en fait, dans le déjà ce que j'aime dans la scène finale, qui m'a inspiré pour le spectacle, déjà par rapport au spectacle, quand tu viendras voir le spectacle, je commence tout de suite par du jazz. Il y a une ambiance comme ça très volontaire, au clin d'œil à ça. Et j'ai construit aussi l'histoire de ce spectacle par ellipse en fait. Pourquoi chronique sentimentale? Le spectacle est construit par plein de petits passages de la vie qui sont avec des ellipses temporelles chacune. Et le point de départ du spectacle, en fait, je me sers de la fin. Je commence par la fin
Ah, génial.
pour dire, voilà, il va se passer, je suis vraiment au moment de retrouver mon ancien amour de jeunesse. Donc, 25 ans après, ça y est, je vais le voir. Et pause, avant d'en arriver là. Voilà comment tout a commencé. Petite musique de jazz que j'ai empruntée vraiment à l'ambiance quand elle rencontre Sally. Et donc là, on le voit déambuler, se refaire le film
De
de
leur
sa vie
histoire.
et le film de leur histoire. Et j'ai exactement pris cette intention-là. Genre, j'ai copié, mais il y a une scène tout à la fin où en fait, voilà, je suis tout seul dans la rue. On lance une petite musique jazz, c'est du Errol Garner. Et en fait, je dis dans la rue, je me suis refait le film de ma vie. J'ai repensé à mes parents, enfin voilà, j'ai repensé. Et je fais redéfiler exactement comme c'est un vrai clin d'œil à Quand elle rencontre Sally, où je refais défiler en fait tout ce qui s'est passé pendant le film de ma vie, avec cette ambiance comme ça où elle est dans cette soirée. Elle s'ennuie. Lui, il est tout seul dans les rues de New York à se refaire le film de sa vie. Et. Voilà, et c'est cette posture-là, c'est exactement ça. Si on devait caractériser le personnage et ce que je fais pendant mon spectacle, c'est ça. C'est-à-dire toujours ce gars un peu loser, un peu dans la rue, voilà, qui est en train de toujours être un peu dans un entre-deux, avec ses petites notes de jazz, cet air un peu comme ça droupi.
Chien battu.
Il repasse devant l'arc dans
Ouais.
lequel ils se sont laissés pour la première fois.
Ouais.
Moi, je trouve ça toujours très beau, ces
Il
petits
refait
moments
le
comme
film.
ça où on voit voilà, toutes les scènes qui ont marqué, toutes leurs rencontres, tous leurs sourires, tous les moments qu'ils ont passés. Et en fait, c'est ça qui est, quand je te disais, ils ont vécu tout l'après avant l'avant. Leur plus beau souvenir n'est finalement pas leur scène d'amour, mais tous les moments d'amitié qu'ils ont partagés. Et ça va être vraiment l'élément déclencheur, en fait. Et ça ne pouvait être que toi. C'est la voix de Harry Connick Jr. qui avait repris les standards de jazz exprès pour ce film.
Et
Non,
là,
là,
ça
c'est
va
la version Frank Sinatra,
s'accélérer.
là, d'ailleurs.
Ça va s'accélérer et il va se mettre à courir.
Voilà.
Et on devine où il va. Il veut aller la
Elle
retrouver.
est de nouveau donc dans cette soirée du
Ouais.
31 décembre, toute seule.
Elle s'est fait draguer par des mecs super chiants. Elle s'ennuie. Elle a qu'une envie, c'est de se barrer. Et lui, on le voit courir dans les rues. Et là, on est quand même dans le...
Le cliché
le
total.
Le climax de la comédie romantique.
Mais qu'on adore. Demande,
là, chaque fois, ça fonctionne et on est accroché au « est-ce qu'il va arriver
oui.
à temps ?» Et à chaque fois, on se pose la question. À chaque fois, on se dit « non, il va la louper, quoi. » À chaque fois. Et évidemment, le taxi ne le prend pas 31 décembre, Harry.
Mais il n'y en avait pas eu tant de films. En fait, avant celui-ci, il n'y avait pas eu tant de films qui prenaient ces codes-là. Enfin, s'il y a Elle et lui avec Gary Grant et Deborah Kerr, je crois, où ils se donnent rendez-vous au sommet de l'Empire State Building, qui est d'ailleurs le point de départ de Nuit Blanche à Seattle, le prochain film de Nora Ephron. Mais là, quand on voit ça pour la première fois...
Le mec, il a craqué un truc qui fonctionne, mais du tonnerre, quoi. Du tonnerre, c'est-à-dire qu'on est suspendu. Va-t-elle partir juste avant qu'il arrive? Non, il arrive en courant. Elle est sur le point de se partir quand leurs regards se croisent. Là, elle fait sa mijaurée, genre...
Oh, pas sa mijaurée, je trouve un peu
non,
sévère.
Non, pas sa mijaurée.
Elle a raison, genre, il faut lui tenir tête.
Ouais, t'as raison. C'est pas le bon mot. Il lui dit « I love you ».
Ah, pardon, je te dis ce que tu veux.
Ouais, là, elle lui dit « va te faire voir, c'est fini, non, mais même pas en rêve ». Et là, la déclaration. Et ça, j'adore. Moi, je rêve qu'on me fasse un jour cette déclaration. Tu sais, quand il lui liste tous ses petits défauts.
Ouais.
Et donc, tout ce qu'il aime chez elle, qui sont des petits trucs. Quoi. Moi, je rêve un jour d'avoir cette déclaration. T'as jamais fantasmé ça?
Si... Si, évidemment.
C'est clairement le truc que je fantasme. Je me dis un jour, pour une occasion.
Alors là, ce
spéciale,
que je trouve beau, c'est qu'elle l'embrasse pas tout de suite non plus. C'est. Il y a de la vraie surprise dans les dialogues en plus.
Je te déteste, en pleurant. Ce qui veut dire je t'aime évidemment. Et puis là, ça va être le baiser de la victoire, je crois.
Et c'est elle qui s'avance pour l'embrasser aussi, je trouve que c'est beau. C'est quand même elle qui garde le contrôle. Hein. Et j'aime cette idée-là. Parce que tu vois, il n'y a pas la gestuelle classique de...
Ouais. Je te protège avec mes grands bras forts. Bah, en même temps, il n'a pas des grands bras forts parce qu'il prend le contre-pied aussi des héros.
Et tout de suite, tu vois, ça reparle tout de suite.
Ouais, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors, est-ce que tu savais... que cette fin a failli ne pas être cette fin.
Non, je ne savais pas.
En fait, le réalisateur,
donc
Rob Reiner, il était, quand il a tourné ce film, il était divorcé depuis 10 ans et il n'arrivait pas à retomber amoureux, il n'avait pas d'histoire. Et donc, il voulait que le film, le premier scénario, les deux personnages finissaient par se séparer et s'oublier. Et il n'y avait pas de happy end à la fin. Okay. Ils étaient séparés. Sauf que pendant le tournage, le réal a rencontré sa future femme.
Okay.
Et que donc, il a voulu changer la fin en happy end.
Okay.
Parce que lui avait retrouvé
l'amour.
L'amour.
Oh, wow.
Et que donc, ça se trouve, ça n'aurait pas fini comme ça. C'est fou quand même.
Ah ouais?
Tu savais pas?
Non, je savais pas. Écoute.
Yes, j'ai chopé une anecdote que tu connaissais pas. Voilà, on arrive à la fin. Et c'est eux qui étaient sur le canapé.
Et voilà.
Voilà.
Parce qu'effectivement, pendant tout le film, on a toujours des interviews de couples plutôt très âgés qui parlent de leur première rencontre, de leur mariage et autres. Et effectivement, ça se termine à la fin par cette interview de Harry et de Sally, tous les deux sur le canapé, qui disent voilà, en gros,
on est mariés. Qu'ils ont fait une grosse taffe et tout. Bon, alors, à ton avis, qu'est-ce qui fait que... Bon, déjà, on s'est bien marré. Ça m'a fait hyper plaisir de revoir ce film. 1989, c'était... Est-ce que c'était une des premières, même la première comédie romantique, en fait, un peu comme ça, codée, aussi codifiée? Tu crois, toi?
Non, je... moi, c'est une... la première que j'ai vue,
Moi aussi, je pense
vraiment.
que c'est la première que j'ai vue.
Après, je ne suis pas spécialiste quand même des comédies romantiques. Non, parce qu'on est quand même dans la grande tradition des comédies américaines des années 50,
Ouais.
60, avec un peu les couples mythiques du
Oui, c'est vrai.
cinéma. Donc non, pour moi, ce n'est pas le premier. C'est juste que là, d'un coup, c'est un regard contemporain. Enfin, il y avait quand même le Annie Hall avec Dean Keaton et Woody Allen qui avait amorcé quelque chose. Mais là, pour moi, c'est le premier qui pose vraiment les bases de tout ce qu'on va, de tout ce qu'on va avoir après, quoi.
Ouais, tout à fait. Et ben c'est pour ça qu'il est resté mythique ce film, hein. On peut dire ça, c'est qu'en fait il a un peu inventé les codes de la comédie romantique, que la chimie est dingue entre les deux acteurs. Ça c'est un peu quand même un must-have de la comédie romantique.
C'est
Et
un
puis
film qui m'a initié au jazz aussi beaucoup
ouais.
parce qu'on a tous les standards de jazz. Je ne sais pas si toi tu étais comme homme, mais moi quand j'aimais un film, après j'allais acheter la bande originale du
Bah
film en
ouais.
cassette ou en CD ou
Bah
en
bien sûr.
vinyle. Et
Je l'ai
ça,
fait légèrement avec Dirty Dancing. Légèrement.
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 Tu avais les deux volets Dirty Dancing et More Dirty Dancing?
Évidemment. Évidemment.
Ouais, il faut vraiment
J'ai
que tu
tout
invites
vu.
Chloé Olivérès qui
On va
parle.
la remettre. Eh bah, figure-toi que c'était ma dernière question, du coup. Qui est-ce que tu aimerais voir invité dans un Crush Movies, dans
Plein
le
de gens,
prochain
parce que
Crush
j'adore ce
Movies?
projet. Je trouve que c'est super. Enfin, les deux premiers épisodes que j'ai regardés, j'ai vraiment pris du plaisir à ça. Donc,
Ben, on avait parlé de Marianne Levy,
de Marianne Levy, ça serait
bah ouais.
vraiment très chouette.
Qui est journaliste et qui a écrit un ouvrage sur la comédie romantique,
Ouais,
qui est
tout
génial,
à fait.
qu'on m'a offert à Noël, que j'adore, que je regarde souvent. Là, on vient de parler de Chloé
Olivérès,
Olivérès,
qui a fait ce spectacle, Quand je serai
qui
grande, je serai Patrick
s'appelle Quand
Swayze.
je serai grande, je serai Patrick Swayze, que j'ai adoré.
Aussi.
Adoré.
Je crois que j'aimerais bien voir Nora Hamzaoui parler
Pourquoi?
de comédie romantique parce que j'adore son débit, j'adore ce qu'elle fait sur scène aussi. Et voilà, j'aime beaucoup sa spontanéité aussi quand elle parle des choses qu'elle aime et qu'elle n'aime pas. Donc je trouve que ça pourrait être très intéressant.
Super. Et à l'international, alors le Big Dream?
Le Big Dream, Meg Ryan, non.
Meg Ryan.
Fran Lebowitz,
Ah ouais.
tu vois qui
Ouais, je
c'est.
vois qui c'est, ouais.
Fran Lebowitz, voilà. Pour moi, qui incarne quand même tellement la figure de la New-Yorkaise telle qu'on la fantasme, en tout cas telle que moi je la fantasme, le côté journaliste, autrice, indépendante, qui a des saillies dès qu'elle parle. Enfin, on a l'impression qu'elle a écrit, elle écrit que des punchlines et c'est absolument brillant. Et qui est une femme âgée, je pense que c'est bien aussi d'entendre tous les âges.
Ouais,
Donc,
tout à
Fran
fait.
Lebowitz.
Ok, génial,
Ça n'arrivera
merci.
jamais, je crois, pardon. Ou
Non,
pas. Oh, croyons en nos
on peut
rêves.
rêver, on peut croire en
Et
nos
bien
rêves.
évidemment, Hélène Segarra, il y a trop de gens qui t'aiment, qui un jour fera le générique de fin de ce podcast, peut-être. C'est n'importe quoi.
L'invitation. Il y a trop de gens qui t'aiment, mais ça ne se voit pas. Non, je sais plus ce que c'est. Belle invitation pour Hélène.
Tout à fait,
Moi, je
Hélène.
rêverais de recevoir Hélène Segarra au micro de Crush. Et pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est bien d'entendre tous les âges. Il y a un épisode de Crush qui s'appelle Amour toujours avec Gigi et Albert,
Ok.
mariés depuis 60 ans, qui
Wow.
m'ont raconté leur rencontre en 1940 et quelques,
Ok.
au moment des surbooms où on dansait le cha-cha-cha, le
D'accord.
mambo et le tango. Et c'est un très bel épisode. Et j'ai du mal à trouver des témoins
Ouais.
de cet âge-là pour
Ok.
venir me raconter parce que. Gigi est une grande conteuse d'histoire et elle adore raconter leur histoire d'amour, mais c'est pas toujours évident. Donc
D'accord.
c'est même peut-être un appel à témoins si vous
Ok.
avez des grands-parents autour de vous. En tout cas, Lou Arthur, merci beaucoup
Merci à toi.
d'avoir accepté de regarder Quand Harry rencontre Sally
C'était un
avec
plaisir.
moi et de m'avoir donné ton avis et d'avoir ouvert ton cœur.
Ok. Merci à
Merci
toi.
beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
It's gonna be A-OK. You know why? Today's my day.